Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, tout de suite, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Ce soir à la une, la réconciliation, en tout cas de façade. Emmanuel Macron et Joe Biden discutent en ce moment même à Rome. C'est l'avenir qu'il faut regarder, dit le président français. Nous n'avons pas d'allié plus loyal, assure son homologue américain. Nous allons revenir dans un instant sur cet échange de politesse, le premier post-crise des sous-marins. Les autres titre de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec des chasseurs qui se défendent de faire n'importe quoi alors que Yannick Jadot veut leur interdire de pratiquer le week-end et pendant les vacances scolaires. Des touristes qu'on va suivre également qui commencent à arriver, week-end prolongé et vacances. Certains se sont déjà jetés à l'eau. On ira aussi aux États-Unis avec cette décision de la justice qui vient de condamner une entreprise pour avoir licencié un homme qui attaquait ce centre hospitalier considérant qu'il avait été viré juste parce qu'il était blanc. Les courses dans le Quintet Plus ce soir à Vincennes. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 6, le 9, le 3, le 5, le 7, le 2 et le 4.
Dans un quart d'heure, cette question, est-ce que les COP servent à quelque chose à 2 jours de la COP 26 en Écosse, au moment où le climat se dérègle comme jamais? Nous allons nous interroger avec notre invité de 18h15, Yann Arthus-Bertrand, déçu de ces grands rendez-vous, l'engagé photographe échangera avec la brigade RTL, avec Virginie Garin, notre journaliste qui a couvert une dizaine de COP, elle, pour RTL. Après 18h30, les dessous de l'actu, les dessous d'une croissance miracle, exceptionnelle, du jamais vu depuis 50 ans, mais une croissance en trompe-l'œil, donc attention au mirage. 18h40, on va refaire nos régions, comme chaque vendredi, vos 20 minutes curieuses près de chez vous, avec aujourd'hui une pédiatre engagée en Alsace, un maire breton qui dépense sans compter pour la cantine scolaire et un plat très roboratif dans les Ardennes. À 19h, l'appel de Yves Cambord sur RTL. Lundi, les terrasses éphémères vont disparaître à Paris et dans plusieurs villes. Le chef star sera notre invité. Il réclame leur pérennisation. 19h15, ils refont la France. Des journalistes étrangers qui nous donnent leur point de vue sur notre actu. Autour de vous, Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quel est le programme?
On parlera notamment de la crise à l'hôpital. On verra si les soignants français sont vraiment moins bien payés que les autres et puis si notre système reste toujours l'un des meilleurs du monde en la matière, c'est pas gagné.
Et puis des points très réguliers sur un temps très agité avec vous, Valérie Quintin, bonsoir.
Oui, bonsoir, on est aux portes d'un épisode Cévenol pour le week-end. Ça commence ce soir, il y a déjà de gros orages actuellement dans le Gard. On va surveiller tous les départements du Sud-Est au cours du week-end. Pour les autres, de toute façon, c'est simple, des nuages et de la pluie.
Le détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Avec donc cette première depuis l'affaire la crise des sous-marins, Emmanuel Macron qui rencontre en ce moment même Joe Biden.
Oui, la rencontre a lieu à Rome à la veille du G20. Bonsoir Bénédicte Tassar.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL en Italie où les deux présidents se retrouvent donc avec déjà une image, cette longue poignée de main entre les deux présidents.
Oui, une longue poignée de main chaleureuse, les deux hommes, dans la réconciliation. C'était important dans le processus que Joe Biden vienne à Emmanuel Macron. C'est la France qui reçoit l'Amérique dans l'une de ses emprises, pas la Villa Médicis au Palais Farnèse, mais c'est la Villa Bonaparte qui a été choisie pour des raisons de sécurité. L'entretien en tête-à-tête débute tout juste dans la galerie, puis les deux délégations discuteront dans la salle à manger. Les deux présidents ont tenu à prononcer un mot d'introduction. On écoute Emmanuel Macron.
Je crois que c'est après nos deux échanges, au mois de septembre et au mois d'octobre dernier, une rencontre importante, parce que suite à l'affaire AUKUS, nous avons enclenché véritablement un travail commun et une réponse politique et une coordination renforcée entre les États-Unis d'Amérique et la France.
Donc ça y est, c'est la réconciliation, Bénédicte?
Alors ce n'est pas un aboutissement, prévient l'Élysée. Il va falloir que Washington apporte des éléments concrets. Déjà, il y a eu un mois de palabres pour réussir cette rencontre physique. On attend maintenant le communiqué qui doit mentionner trois points essentiels. Les États-Unis doivent soutenir la construction d'une défense européenne. La France doit avoir un rôle à jouer dans les océans Indo-Pacifique. Et les Américains doivent soutenir concrètement l'opération Takuba au Sahel.
Les explications à Rome de l'envoyé spécial de RTL, Bénédicte Tassard.
Autre sujet sensible pour la France, toujours ce soir, avec Londres autour de la pêche. Face aux mesures de rétorsion annoncées par la France, le gouvernement britannique menace désormais de renforcer les contrôles des bateaux européens dans ses eaux.
Après la pêche, la chasse, pour profiter des paysages sans avoir peur de se faire tirer dessus, eh bien Yannick Jadot propose d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires.
Le candidat écologiste à la présidentielle qui pointe de nombreux accidents encore hier en Haute-Savoie où une personne a été blessée, pour lui, il est temps de redonner la nature aux promeneurs.
Pour que tout le monde puisse accéder à la nature, en profiter, que ce soit les randonneurs, les joggeurs, les cyclistes, les familles, les enfants. En Grande-Bretagne, notamment, il y a déjà plus le dimanche. En Italie, il y a déjà deux jours par semaine sans chasse. Il va y avoir un référendum en Italie, même sur l'interdiction de la chasse. Donc, on prendra des mesures très fortes.
Dans les rangs des chasseurs, la proposition évidemment ne surprend pas de la part du candidat écolo, mais elle agace. Vous l'avez constaté près de la forêt de Mormal, dans le sud du département du Nord, Franck Hanson.
Oui, ils ne cachent pas leur colère d'être encore pris pour cible. Ces chasseurs de la Vénois se retrouvent régulièrement les week-ends pour traquer sangliers ou petits gibiers. Et tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité, assure Paul Rigler, armurier à Beaufort et responsable d'une société de chasse.
Ça me fait hurler, oui, j'ai plutôt l'impression qu'on balance encore un pavé dans la mare pour faire un peu de bruit. Je trouve ça malheureux de toujours nous taper dessus, de faire des amalgames comme ça et nous priver de notre hobby le dimanche et les vacances. Ben c'est aussi une façon de priver la nouvelle génération, les enfants qui veulent nous suivre. Je suis conscient que la nature doit appartenir à tout le monde. On marque les endroits auxquels on chasse, on impose des panneaux, des gilets fluo pour tout le monde, même pour les accompagnants.
La forêt de Mormal est d'ailleurs divisée en parcelles avec différentes périodes de chasse. Pour Alexandre, qui suivait son père tout petit, la cohabitation peut parfois être compliquée.
Lorsqu'on chasse au grand gibier, il y a quand même des panneaux avertissant les chasses. Il y a tout type de promeneurs. Voilà, il y a des promeneurs qui sont consignants, qui font demi-tour, d'autres qui pensent que la forêt leur appartienne et donc se fichent un petit peu de la signalisation. Le tout, c'est de prendre le temps et d'expliquer.
En tout cas, pour ce week-end, ces amateurs ont déjà préparé leurs fusils.
Le reportage de Franck Hanson dans la Vénois pour RTL.
Une décision de justice rendue cet après-midi. La relaxe de Jean-Marie Le Pen, jugé pour provocation à la haine raciale pour ses propos sur la fournée en 2014. On fera une fournée la prochaine fois, avait dit l'ancien président du Front National en parlant des artistes engagés contre le FN, parmi lesquels Patrick Bruel.
Alors, pour le tribunal correctionnel de Paris, le mot fournée renvoie bien à l'image des fours crématoires utilisés dans les camps d'extermination nazis. Mais il estime dans le même temps que ces propos ne constituent pas un appel à la violence.
Le tribunal évoque une jubilation devant l'occasion de faire un bon mot à destination d'un auditoire qui lui est acquis. Un jugement que dénonce la LICRA, partie civile dans le procès. Maître Saber est l'avocat de l'association.
En fait, ce que nous dit le tribunal, c'est qu'un propos antisémite qui a été tenu sur le ton du rire peut disculper son auteur. Une telle interprétation est, à mon sens, vraiment absurde. D'abord, Jean-Marie Le Pen est un responsable politique, un ancien responsable politique et pas un humoriste. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas dans l'exercice de la liberté d'expression. Et je rappelle encore une fois que le tribunal a reconnu le caractère indiscutablement antisémite du propos qu'il a tenu. Donc, nous porterons cette affaire devant la Cour d'appel de Paris. Nous la plaiderons en espérant que Jean-Marie Le Pen sera condamné pour les propos qu'il a tenus.
Maître Saon Saber, avocat de la LICRA, avec Thomas Proutot pour RTL.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant avec ses mises en examen dans l'industrie de la pornographie. Quatre acteurs poursuivis. À tout de suite.
RTL Soir. Julien Cellier. Julien Cellier.
RTL Soir.
Et à 18h10, donc la suite de votre journal sur RTL avec cette affaire qui jette une lumière crue sur les pratiques de l'industrie du porno. Quatre acteurs viennent d'être mis en examen pour viol.
Dans une enquête ouverte en 2020 et dans laquelle deux producteurs sont déjà mis en examen, Nathan Bocard.
Oui, et c'est au cours de leurs investigations que les enquêteurs ont identifié une cinquantaine de victimes potentielles. Des femmes qui ont toutes participé à des tournages du site pornographique français French Bukkake. Elles dénoncent des violences sexuelles sur les tournages. Producteurs et acteurs leur auraient imposé des pratiques extrêmes, non consenties. Lorraine Questio est l'avocate de plusieurs victimes.
En réalité, s'exerce sur ces plateaux une contrainte, de la surprise, c'est une illusion de consentement et donc des viols.
Alors ce n'est pas la première affaire de ce type. Depuis 2020, le site Jackie et Michel est lui aussi visé pour une enquête pour viol et proxénétisme. Maître Questio espère que cette nouvelle procédure va libérer un peu plus la parole des victimes.
Les femmes qui ont été humiliées, qui ont été maltraitées dans ce contexte d'industrie pornographique peuvent être sûres qu'elles seront entendues et crues par la justice, ce qui est inédit. Hein.
Alors, plusieurs groupes pornographiques français ont annoncé travailler sur des chartes déontologiques, une démarche qui est loin de convaincre les avocats et associations de défense des victimes.
En précision signée Nathan Bocard pour RTL. Aux États-Unis, un procès en discrimination et à la clé 10 millions de dollars.
Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant RTL à New York, outre-Atlantique, où un homme qui estimait que son seul tort était d'être blanc vient de faire condamner le centre hospitalier qu'il avait licencié.
Oui, un tribunal de Caroline du Nord a en effet estimé que la race ou le sexe explique le licenciement de ce cadre supérieur de 50 ans. David Duval se dit sacrifié sur l'autel de la diversité car il a été remplacé par deux femmes, une femme blanche et une femme noire. Son employeur évoque plutôt un problème de compétence et se réserve le droit de faire appel car les indemnités de 10 millions de dollars ont de quoi inquiéter les entreprises. Une telle argumentation est rare, mais ce n'est pas une première. Exemple bien connu aux États-Unis, celui d'Amy Cooper, célèbre pour avoir appelé en panique la police car un homme noir lui demandait de tenir son chien en laisse dans Central Park. Son employeur l'avait licencié suite à cette affaire. Elle a contre-attaqué, se disant victime de racisme anti-blanc, mais sa plainte à ce jour n'a pas abouti.
Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le début ce soir d'un week-end prolongé, ou peut-être mieux, même des vacances. D'ailleurs, certains ont commencé à se lancer. Hein, Philippe de Maria, vous êtes à Biscarrosse pour RTL.
Oui, Alexandre était encore à Paris ce matin. Et là, il court sur le sable avec sa planche de surf sous le bras.
Pour le week-end, on est arrivé là à midi et on va démarrer à surfer à 15h. Donc c'est sympa. Si on reste à Paris, on fait rien, donc autant profiter.
Miguel, son prof, délivre les dernières consignes de sécurité.
Quand on tombe, on se protège la tête avec les deux bras. C'est hyper important, très très bien. Ensuite, avec le courant là peut-être.
Les cours de surf ont très bien fonctionné en première semaine de vacances. Yann est le patron de l'école Point Break.
Très sympa en termes de qualité, de température de l'eau. C'est une très bonne première semaine.
Les touristes de Toussaint sont bien là. La fréquentation est plutôt bonne, la plus fine. Et le vent d'aujourd'hui ne gâche pas le plaisir de Laurence et Emmanuel.
Ça permet de prendre un bon bol d'air pur surtout. Hein.
Ça fait du bien, ça fait respirer, ça enlève toute la grisaille qu'on a dans la tête toute l'année et on en avait fort besoin.
Voilà, on vous souhaite à vous tous d'en profiter. Donc bon courage quand même pour ce soir, une journée classée orange sur les routes au niveau national et rouge en Ile-de-France.
Merci Marion. Bon, il y a quand même des vacanciers qui ont choisi la bonne semaine, celle qui vient de s'achever. Puis il y a ceux qui partent là. Ça oui. Risque d'être assez coton dans les prochains jours. Ça commence par ce week-end très agité. Valérie.
Dans le sud, entre les Cévennes et les côtes provençales, notamment pour la nuit prochaine et la journée de demain, mais également pour la journée de dimanche, où il va y avoir de très fortes pluies orageuses sans arrêt, donc un cumul assez important d'ici la fin du week-end. Demain, un ciel bien plombé et très pluvieux sur une large moitié est du pays, en dehors de la Corse, qui va vraiment rester un petit peu à l'écart. Et puis, à l'ouest, à l'arrière, on peut espérer quelques éclaircies quand même passer la mi-journée entre la Normandie et le Pays Basque. Bon, enfin, ce ne sera pas non plus du grand soleil. Les températures iront de 13 à 25 degrés dans l'après-midi de Strasbourg à Perpignan, 16 à Mâcon, 17 à Paris et Avignon, 22 degrés pour Pau et Ajaccio. Dimanche, on va garder un semblant de douceur avec un ciel toujours très, très plombé. Et figurez-vous que ce sera le cas aussi la semaine prochaine.
Merci quand même, Valérie. Une pause sur RTL et ensuite la question du week-end qui arrive. Est-ce que la COP26 sera efficace? Pourrons-nous enfin freiner le réchauffement climatique? Notre invité en doute fortement. Le photographe et cinéaste Yann Arthus-Bertrand, très engagé pour la planète, sera avec nous et on va poser trois questions à la brigade RTL sur l'utilité d'un tel rendez-vous. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Et bonne fin de semaine, bonne fin de journée avec RTL. Cette question maintenant, peut-on vraiment sauver la planète? On s'interroge ce soir avant l'ouverture dimanche de la COP26. Les grands de ce monde vont tenter de s'entendre à Glasgow au moment où les prévisions pessimistes, alarmistes se multiplient. On rappelle à l'objectif de Paris en 2015, limiter à 1,5 degré le réchauffement à l'horizon 2100. Seulement voilà, l'ONU prévient la trajectoire actuelle, c'est plutôt 2,7 degrés, donc le compte clairement n'y est pas. Dans ce contexte de COP, une parole détonne, celle de notre invité. Bonsoir Yann Arthus-Bertrand.
Comment vous savez que je vais détonner?
Parce qu'on vous connaît, photographe, cinéaste engagé, président de la fondation Good Planet. Vous vous dites, et ce n'est pas nouveau, hein, les COP ne servent à rien. C'est assez radical. Expliquez-nous pourquoi.
C'est-à-dire que depuis que les COP existent, moi j'ai été pratiquement au début, hein, parce que quand j'ai commencé La Terre vue du ciel, c'était vraiment la première COP en 92. J'étais dans beaucoup de COP et j'ai cru aux COP. Mais avec le recul, je m'aperçois bien que jamais une COP n'a fait descendre le taux d'émission des gaz à effet de serre, jamais une fois. Donc quelque part, ces grandes réunions, c'est un peu comme des grandes réunions de copropriétaires, où tout le monde dit ce qu'il a à dire, voilà, on essaye de signer un papier en rentrant, en disant, ben voilà, on a fait notre boulot. Je pense de toute façon que les hommes politiques aujourd'hui ne sont que le miroir des électeurs. C'est les électeurs qui décident. Et tant qu'on sera 40 000 dans la rue pour la marche pour le climat, 200 000 pour le pass sanitaire, ou même 2 millions pour l'arrivée de la Coupe du Monde, voilà, je pense qu'on n'a pas compris et que là on se bat pour la vie, tout simplement. On se bat pas pour sauver la planète, comme tu as dit tout à l'heure, mais on se bat pour sauver la vie sur Terre. C'est quand même beaucoup plus important.
Et vous êtes quand même invité au COP, d'ailleurs. Je crois que vous allez y aller à Glasgow. Ça peut paraître paradoxal.
Oui, mais je suis, il se trouve que Legacy, le dernier film qu'on a fait, a été, Sting a fait la voix bénévolement, il a fait la voix du film, et on a deux projections, dont une avec le prince Charles et sa famille et une autre avec la COP. Et c'est plutôt bien, parce que dans ce film j'annonce très clairement que les COP ne servent à rien, mais je pense qu'ils le savent eux-mêmes. Oui. Du moins, je crois qu'il y a une envie. Je ne dis pas qu'il y a de mauvaise foi, mais ils savent très bien le peu de pouvoir que peuvent avoir les hommes politiques aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment nous qui décidons avec nos voix et avec ce que nous achetons et ce que nous sommes. Quoi. On en voit bien que les taxes carbone, si le pays n'en veut pas, elles n'existent pas. Quoi. Voilà, c'est vraiment une décision. Et mon travail à moi, en tout cas, c'est à travers nos films, à travers la Fondation Good Planet, d'essayer d'amener de l'éducation et de l'information. Voilà.
Alors, on va poursuivre cette discussion avec Virginie Garin, qui est avec nous en studio, qui est un peu la spécialiste liste COP, hein, ici à la rédaction. Vous en avez suivi une dizaine, Virginie, bonsoir.
Bonsoir.
Pour vous, la COP, ce n'est pas si inutile, ça fait quand même bouger les choses.
C'est vrai que je rentre souvent désespérée de ce genre de rendez-vous, mais quand même, je ne serai pas aussi sévère que vous, Yann Arthus Bertrand, parce qu'une fois par an, on parle du réchauffement climatique dans les médias. C'est une sorte de tribune pour les scientifiques, pour les ONG qui alertent les politiques. Dans les couloirs, c'est très beau d'ailleurs, la COP, il y a toutes les nationalités, on croise des habitants des îles, des dames avec des fleurs dans les cheveux qui témoignent qu'elles coulent. Donc, on leur donne la parole, ça fait avancer les consciences. Greta Thunberg, elle est née dans une COP, on l'a découverte à Katowice en Pologne. Et puis moi, ce que j'ai vu COP après COP depuis 12 ans, c'est qu'au départ, on était avec d'austères négociateurs, donc des diplomates. J'ai vu progressivement arriver les entreprises, parce que la COP, c'est ça aussi, ça ressemble à une grande foire avec un lieu immense pour les grands groupes mondiaux qui viennent présenter leurs solutions, les véhicules électriques, les bus à hydrogène. Ça les fait bouger. Elles forment ce qu'on appelle des coalitions. Et toutes les entreprises qui sont présentes à la COP depuis quelques années, eh bien, elles utilisent aujourd'hui plus d'énergie renouvelable que ce que consomme par exemple le Royaume-Uni. Donc, il y a quand même des choses qui se font en marge de la COP.
Yann Arthus Bertrand, quand on entend Virginie, on se dit que le chemin, il est long, compliqué, mais il existe dans les COP, non ?
Je pense qu'on a tous compris qu'on doit tous changer notre façon d'habiter la Terre, c'est évident, mais un petit exemple. Quand j'ai fait le film Home en 2008, on dépensait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. Et en plus, les énergies renouvelables qu'on a développées se sont additionnées et non pas soustraites. C'est-à-dire que notre vie au quotidien, le contraire de ce qu'on devrait faire. Alors c'est ça, je dis, que dire que ce qui, c'est pas que les COP ne servent à rien, c'est que je pense que les gens qui viennent négocier n'ont pas le pouvoir de changer les choses. C'est ça la différence. Je pense qu'ils y croient, ils n'ont pas le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, dans une démocratie, c'est le peuple qui décide. Je pense que les gens n'ont pas encore compris la catastrophe de laquelle on va. Tout simplement, c'est pas une question de... Je suis certain qu'ils sont de bonne foi, mais quand vous signez les... Regardez, la COP 21 dont tout le monde le parle, en disant c'est formidable, tout le monde a applaudi, les gens pleuraient et tout, mais est-ce que vous n'aurez rendez compte que dans le traité de la COP 21, il n'y a pas le mot pétrole, il n'y a pas le mot énergie fossile, il n'y a pas le mot gaz, il n'y a pas le mot charbon, alors que tout le monde est réuni pour parler de ça, en fin de compte. Sinon, les pays producteurs ne signaient pas. Vous voyez bien, il y a une espèce d'hypocrisie diplomatique où on veut que ça avance, vous on peut faire croire qu'on fait des choses, mais en fin de compte, sur le papier, on fait rien. Quoi.
Et vous parlez de diplomatie, vous dites, je suis sûr qu'ils sont de bonne foi, mais il y a aussi un petit peu de mauvaise volonté. Virginie, on ne va pas le nier, à cette COP 26, il y a beaucoup d'énormes pollueurs, de pays pollueurs. qui ne jouent pas le jeu.
Alors, c'est vrai qu'il y a un espoir, c'est le retour des États-Unis dans la négociation et le président américain sera là, mais il va manquer les Chinois, il va manquer, les Brésiliens seront là, mais ils vont tout faire pour essayer de freiner les négociations. Il va manquer les Russes, les grands pollueurs. Donc c'est vrai que on va pas sortir de cette COP avec des ambitions extrêmement nouvelles. Voilà. Mais c'est quand même, c'est pas l'ONU qui va changer le monde et sauver la planète. Les COP, elles servent aussi à fixer un cadre juridique ou fixer des règles. Par exemple, qu'est-ce qu'une tonne de carbone? Quand on dit on réduit les émissions, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles règles on met? Quand vous parlez de compensation carbone, par exemple, Yann Arthus Bertrand, vous en faites dans votre fondation. Il y a des Français qui polluent, qui vont aller financer, par exemple, des fours solaires au Pérou. Où est-ce qu'on met ces réductions d'émissions-là? Est-ce qu'on les comptabilise en France? Est-ce qu'on les comptabilise au Pérou? C'est toutes ces règles un peu techniques qui sont négociées là-bas et qui sont indispensables pour avancer quand même.
Yann Arthus Bertrand, le mot de la fin.
Écoutez, vous savez, le dernier rapport du GIEC fait quand même froid dans le dos. C'est-à-dire, quand on parle de la sixième extinction, c'est quoi? C'est la mort de mes enfants, de mes petits-enfants. Moi, je ne pensais pas, de ma vie d'homme, à 75 ans, voir sous mes yeux se dérouler le changement climatique. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui n'aura d'effet que dans 20 ans. Il y a une inertie qui se fait. Vous imaginez où on va? Regardez ce qui vient de se passer au Canada avec cette ville qui a brûlé toute seule sous la chaleur. Regardez ce qui est en train de se passer avec les inondations en Allemagne, en Belgique, ou même en France, au sud de Nice. Le changement climatique, il est là. Et quand les scientifiques vous disent... Il y avait quand même 20 ans qu'il y a des COP. Le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans est parti à jamais, Ça fait quand même froid dans le dos. Donc, faut pas demander aux COP de régler le problème. C'est à toi et c'est à moi de le régler aujourd'hui. Ce qui est important, c'est pas ce que les autres font, c'est ce que je fais moi. Bien sûr, on va avoir un changement climatique, il va arriver. Mais tout ce qu'on, je pense que agir rend heureux. La seule façon de supporter tout ça, ben, c'est d'être acteur du changement.
Merci Yann Arthus Bertrand d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Vous, le président de la fondation Good Planet, donc à 48 heures d'où l'ouverture de cette COP26 dont on se demande si elle peut vraiment sauver la planète, sauver la vie, vous disiez Yann Arthus Bertrand. Merci Virginie Garin de la brigade RTL avant votre départ justement à Glasgow de nous avoir également éclairé ce
Alors,
soir.
Alors je peux rajouter un petit mot?
Allez-y très vite.
Ce week-end à la Fondation Good Planet, c'est un endroit qui est ouvert à Paris, qui est ouvert à tous, gratuit. Il y a un grand débat sur la photographie animalière, je vous conseille d'y aller. C'est un endroit extraordinaire où règne la gentillesse, la bienveillance, où on parle d'une écologie humaniste, on parle aussi bien des réfugiés, de l'école de cuisine, un escape game sur le carbone. Donc allez à la Fondation Good Planet.
C'est voilà. Noté pour ce week-end. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand d'avoir été ce soir avec nous sur RTL.
Merci.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Alors, on marque une petite pause et ensuite RTL Soir va se poursuivre avec les dessous de l'actu, les dessous d'une croissance exceptionnelle, c'est du jamais vu depuis presque 50 ans, mais croissance en trompe-l'œil, donc attention au mirage. Et puis vous allez découvrir dans Laissez-vous tenter dernière le chanteur du dessin animé Soul de Pixar. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL. Allez, bonne fin de journée, vous écoutez RTL, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Et si vous vous branchez, Marion Calais se charge de vous rappeler les grands titres de l'actualité.
Les États-Unis font amende honorable après avoir, aux dépens de la France, raflé la mise des sous-marins commandés par l'Australie. Joe Biden évoque une maladresse. Le président américain qui rencontre en ce moment même Emmanuel Macron, le chef de l'État qui doit par ailleurs rencontrer le Premier ministre britannique ce week-end en marge du G20 avec le dossier de la pêche au cœur des discussions. Elle ignorait la présence de balles réelles sur le tournage. Les avocats de l'armée Murière rejette toute responsabilité après le tir mortel d'Alec Baldwin la semaine dernière.
Merci Marion. Le temps très perturbé, Valérie, avec des départements en alerte.
Oui, trois départements, l'Ardèche, le Gard et la Lozère. Ce sont donc les départements proches des Cévennes qui ont déjà des pluies orageuses ce soir. Ça va être le cas tout le week-end. Des pluies qui vont concerner aussi toutes les régions méditerranéennes dès demain, en dehors de la Corse qui devrait garder un temps à peu près bien ensoleillé. Donc on va vraiment surveiller ces régions du sud-est demain. Pour les autres, des pluies également un peu moins soutenues. Demain, c'est l'est qui va s'y coller avant une nouvelle dégradation par l'ouest dimanche. Entre deux, on peut espérer un peu de soleil. 14 degrés attendus à Annecy demain après-midi, 16 à Lille, 17 à Paris, 20 pour Marseille.
Merci Valérie.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, les dessous d'une croissance exceptionnelle. 3% au troisième trimestre, rendez-vous compte, c'est quasiment du jamais vu depuis 50 ans. Mais attention à ne pas s'emballer. Bonsoir Anaïs Bouissou.
Bonsoir.
C'est vous qui venez gâcher l'ambiance ce soir parce que cette croissance, c'est peut-être un mirage.
Ah oui, 3% de croissance, des chiffres pareils. C'est arrivé deux fois, hein, depuis un demi-siècle, après mai 68 et l'an dernier, juste après le premier confinement. Vous avez parlé d'un mirage. Oui, c'est une sorte de trompe-l'œil. Quand l'économie ralentit jusqu'à presque s'arrêter, c'est comme un élastique qu'on tend, qu'on retient au maximum avant de le lâcher. Il y a un effet rebond. Ben là, c'est pareil. La croissance a rebondi très fort. Les loisirs ont rouvert, le tourisme, les cafés, hôtels, restaurants, tout le monde a consommé, tout le monde a redépensé de l'argent. Ça donne des chiffres excellents, inespérés même. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est reparti pour 30 glorieuses années de croissance. Il est probable maintenant que l'économie se remette à ralentir un peu, retrouve un rythme plus normal pour la fin de l'année. Ce sera assez logique et il faudra surveiller de très près. Deux nuages à l'horizon, les pénuries de matières premières qui gênent les productions, on en parle régulièrement, et l'inflation, le prix des produits qui grimpe très fort.
Anaïs, ça aura au moins eu le mérite de créer des emplois.
Oui, tout à fait. La consommation a permis d'embaucher, a créé des richesses, a fait travailler toute l'économie du pays. Ça s'est vu d'ailleurs, le nombre de chômeurs diminue et ça reste une très bonne nouvelle pour le pays.
Est-ce que c'est la même tendance chez nos voisins ?
Alors on est plutôt en avance sur les autres. Ouais. Sur les 11 pays européens qui ont déjà publié leurs statistiques de l'été, la France fait partie des deux premiers, avec l'Autriche à repartir si fort. Le Portugal et l'Italie sont un peu derrière. L'Allemagne, quant à elle, obtient une croissance plus faible, 1,3% de croissance. Mais le pays avait aussi été moins touché par la crise en 2020.
Merci Anaïs Bouissou, les dessous de cette croissance miracle en trompe-l'œil avec vous ce soir sur RTL.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h32 minutes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, place au bon conseil maintenant. C'est toujours la parenthèse attendue de l'équipe de Laissez-vous tenter. On va parler musique ce soir avec Julia Molcou. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et avec vous, ce soir on se lève, on danse et on sourit.
Je vois que vous êtes vous-même déjà conquis par le swing du formidable John Baptiste.
Pas être conquise. Parlez-nous de lui. C'est qui, c'est John Baptiste, cette jolie découverte?
John Baptiste est avant tout un musicien hors pair, un batteur, pianiste, compositeur, chanteur, qui a d'ailleurs reçu un Oscar pour la musique du film Soul.
Ah, ça me disait quelque chose.
Vous savez, ce délicieux dessin animé des studios Pixar. Et voilà, depuis la sortie de son album We Are, le trentenaire, originaire de Louisiane, n'en finit pas de faire parler de lui, et pour cause. Des musiciens audacieux comme lui, Julien, on n'en croise pas tous les matins. When I move my body just like this. I don't know why, but I feel like freedom. I hear a song that takes me back, and I let go with so much freedom. Brilliant. Original et formidable jusque dans ses costumes. Allez jeter un œil au clip de John Baptiste qui donne envie de danser dans la rue et de sourire aux gens. Ce type-là fait du bien, il apporte de la lumière et clairement, on pourrait en manquer au mois de novembre.
Ah bon ?
Donc, ne vous privez pas. John Baptiste et son album We Are, dont l'édition Deluxe, agrémentée de 6 morceaux supplémentaires, est sortie il y a 10 jours, sont à consommer sans modération tout l'hiver.
C'est de la vitamine D en CD, effectivement, ce John Baptiste. Merci beaucoup pour le conseil,
merci
Julia.
Vous.
On vous retrouve demain matin avec la bande
Christophe Paco
avec Christophe
pour
Paco,
la matinale,
avec la bande des matinales week-end sur RTL. On va marquer une très courte pause et ensuite dans un instant, comme chaque vendredi, avec Marion et avec vous de l'autre côté du poste, on va refaire nos régions, vos 20 minutes pour apprendre tout plein de choses près de chez vous. Dans un instant, une pédiatre alsacienne à vélo vers la COP26, un maire breton qui dépense beaucoup d'argent pour sa cantine scolaire et un plat typique des Ardennes, la Cacasse à Cunu. Voilà un nom bien énigmatique. À tout de suite sur RTL.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.